là, par exemple, une contravention, hein, de rouler trop vite, c'est 11 sur 100. C'est pas beaucoup, mais c'est pas mal, hein. 11 sur 100, contravention, hein. L'arbre de Noël que vous faites à la maison, c'est 12. Et je peux monter comme ça le stress, hein. D'accord. Un emprunt, hein, bon, ainsi de suite. Et si je pars par le haut de l'échelle, l'événement le plus stressant, donc qui nous fait le plus réagir dans la vie, c'est le deuil. Évidemment, le deuil d'être proche, et là, c'est un petit peu comme l'eau bouillante, c'est 100, hein, d'accord. C'est le maximum. Et si on passe juste l'événement en dessous du deuil, c'est le divorce, qui fait le plus stresser, qui donne le plus de problèmes un petit peu à ceux qui le vivent. Le divorce, c'est à 73 par rapport au deuil à 100, et la contravention à 11. Voilà, vous avez l'échelle des situations, du stress, des événements qu'on vit, en gros. Donc pourquoi je dis ça? Pour dire qu'un divorce, ce n'est pas quelque chose de facile, hein, c'est quelque chose qui va marquer une vie, hein, qui va marquer, hein, une relation. Voilà. Mais avant de parler du divorce, je voudrais juste rappeler de quoi on parle quand on parle du couple. Puisque le divorce, c'est la fin d'un couple, on va juste se poser la question rapidement. Qu'est-ce qui prend fin dans le divorce? Qu'est-ce qu'un couple? Qu'est-ce qui s'arrête avec le divorce? Alors, il y a le tableau qui est là. Si je vais là-bas, j'ai plus le micro, mais vous allez voir, je vais essayer. Je vais essayer de faire trois cercles. Alors, vous voyez que non, peut-être pas très fort. Hein. Je vais juste passer ma main maintenant. Je vais faire un cercle qui est un marron. Là, j'ai un marron.
Avec les pieds, peut-être.
Merci. Voilà. Donc, c'est pas terrible tout ça. Bon, hein, voilà, je vais faire trois cercles. Vous les voyez, mes trois cercles, hein, voilà, hein, bon, hein, deux et trois. Les trois cercles, donc un, deux et trois. Hein. Donc, un couple est fait de trois instances importantes. Je les rappelle pour qu'on comprenne ce qui va suivre derrière un petit peu. La première instance du couple, c'est ce qu'on appelle donc le couple légitime. À ne pas confondre avec la seconde instance qui est le couple légal. Le légitime, c'est ce qui fait qu'on vit ensemble, hein, qu'on s'est mis ensemble, qu'on reste ensemble. Ce légitime peut être de toutes sortes, il peut être affectif, hein, il peut être d'intérêt, hein, par exemple. Bon, hein, il y a des gens qui restent ensemble par intérêt, ça vaut autre chose. Hein. D'accord. Donc le légitime, c'est ce qui donne le sens et le pourquoi on va se battre. Le légal, c'est ce qui se fait à la mairie. Que ce soit le Pax ou que ce soit le couple, hein, il y a toujours quelque chose de légal qui se fait. Hein. Chaque zone, bien sûr, chaque sphère a son langage, a tout cela, mais je ne vais pas en parler ici. Donc le légitime, c'est ce que vit le couple en lui-même et ce pourquoi il est ensemble et ce pourquoi il veut se battre pour rester ensemble. Le légal, c'est ce qui est censuré et donc par la loi, hein, ainsi de suite. Et le troisième cercle, c'est ce qu'on appelle le couple parental, qui lui existe même qu'il n'y a pas des enfants. Le couple parental qui est donc bien sûr la projection du couple légal, du couple légitime dans le couple parental. Au moment du divorce, hein, ça va mes trois cercles, hein, au moment du divorce, c'est le couple légal qui prend fin. Hein. Un acte légal a fait le couple, un acte légal défait le couple. Le juge, hein, d'accord, hein, prononce le divorce, mettant fin au couple légal, on est loin d'avoir mis fin au couple légitime. Qui lui va continuer à vivre malgré la fin du couple légal. Hein? Et bien sûr, le couple parental, le troisième, lui, ne meurt jamais. C'est le problème, un petit peu. Hein? Le couple parental va continuer à fonctionner au-delà, bien sûr, hein, de la fin du couple parental, de la fin du couple légal et légitime. Comme le couple parental est la projection, hein, dans le temps et dans l'espace, j'ai envie de dire, de ce qui s'est passé dans le couple légitime et le couple légal, on va comprendre que la continuité du couple parental va poser des problèmes par rapport à tourner une page par rapport au couple légitime. Hein? Alors que le couple légal, ça se tourne facilement. Vous êtes toujours dans mon légal légitime, là, ça va? Avec mes cercles, hein? Voilà. Donc, plus le couple, ce que je vais dire un petit peu, plus le couple légitime, le couple émotionnel, le couple psychologique, si vous préférez, le couple amant, hein, plus il a été fort, plus le divorce sera difficile. Hein. C'est lui qui aura le plus de peine à mourir. Hein. C'est lui qui aura le plus de peine à mourir. Ce champ-là, donc dans ce couple légitime, il y a tout ce qu'il y a de conscient Et il y a beaucoup d'inconscients. J'en parlerai un petit peu. Quoi. Alors, je voudrais maintenant, donc j'ai rappelé un petit peu de quoi il s'agit ici, en parlant du couple légitime, légal et parental, on comprend, ça se complique un petit peu les choses. Hein. Il ne s'agit pas de dire, voilà, on divorce pour qu'on ait divorcé, on peut être divorcé légalement, hein, mais pas légitimement. D'ailleurs, on dit que les couples qui continuent à se disputer, hein, les couples parentaux, hein, qui continuent à se disputer après un divorce légal, c'est que le couple légitime n'est pas mort. Et qui continuent de manière un peu perverse, hein, ce qu'ils n'ont pas été capables de faire de manière organisée et fonctionnelle. Quand je dis pervers, je ne dis pas qu'on est des pervers. Vous avez compris quand je dis ça, hein, d'accord? Je voudrais dire de manière dysfonctionnelle, mais bon, c'est un autre mot qu'on emploie. Hein, voilà. Donc on continue de manière dysfonctionnelle une relation qui n'a pas su être construite dans le domaine du couple légitime de manière fonctionnelle. Alors, je vais parler de la perte du divorce. Le divorce, c'est perdre, donc, hein, et accompagner cette perte. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Vous savez que dans le divorce, on ne se lève pas un matin en disant « Bon, aujourd'hui il fait beau, ou il pleut, hein, je ne sais pas comme vous voulez, hein, si on divorçait. » Voilà, on ne sait pas que faire, aujourd'hui, on va divorcer. Hein, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a un qui chemine différemment de l'autre. C'est l'homme, c'est la femme. Aujourd'hui, c'est plus souvent les femmes que les hommes, hein, qui cheminent différemment à l'avance sur l'homme. C'est-à-dire qu'il y en a un qui... Alors, ce n'est pas le lieu de la conférence de parler de ça, mais qui a commencé à cheminer des fois des années avant que l'autre, hein, ait pris conscience que le couple commençait un petit peu à se séparer. L'initiateur, on l'appelle l'initiateur, lui, il va parcourir beaucoup de chemin avant d'arriver au moment où il va révéler à l'autre, de manière plus ou moins gentille, j'ai envie de dire, des fois pas très maligne non plus, mais enfin, il va faire percevoir à l'autre, de manière brutale, si des fois ça arrive, que le couple est terminé pour lui. Donc, il y en a un qui a fait tout un cheminement qui va durer des années, un travail de deuil, de lâcher les choses, hein, voir qu'il s'est réinvesti ailleurs, et il dira à un moment donné à l'autre qu'il arrête le couple, ce qui pour l'autre est un choc, évidemment, puisque pour lui, hein, même s'il pensait que son couple avait des petits problèmes, même des gros problèmes, il n'était pas dans la perspective de la séparation, du divorce. Et il va avoir un choc ici, d'accord, de réaliser tout d'un coup que le couple, il y en a un des deux qui a décidé, hein, voilà, quand le mari rentre, hein, ou l'ex-mari rentre et qu'il trouve une lettre en disant, voilà, maintenant, hein, on se reverra à l'avocat, hein, j'exagère un tout petit peu, hein, mais c'est pour dire ça. Donc il y a un cheminement de l'un, et ce n'est pas de celui-là que je vais parler. Hein. Lui, il a très souvent, enfin, on peut en parler aussi, hein, mais il a très souvent pris le temps de cheminer intérieurement pour arriver à cette étape où il peut dire à l'autre, notre histoire est terminée. Ce que j'ai dit pour l'autre est souvent un choc qui n'a pas vu venir un petit peu l'orage, hein, si vous voulez. Voilà. En tout cas, pour les deux, on a d'une manière ou d'une autre, quand il y a cette séparation, le divorce, il y a plusieurs choses que je voudrais voir ici, plusieurs problèmes qui se posent, hein, donc ne tournez la page, j'ai dit quoi. Le moi, le nous conjugal, hein, le nous conjugal, le nous légitime, ce que j'étais le légitime, hein, qui est construit différemment pour les hommes et pour les femmes, hein, mais peu importe. Donc ce nous est fait de trois choses qui vont devoir s'arrêter. Et on n'arrête pas tout un processus affectif, psychologique, conscient et inconscient en tournant un bouton. Hein. Il faut du temps, et le temps n'est pas suffisant, il faut le travailler. Hein. Bon, on va voir ça un petit peu. Donc on va perdre trois choses en perdant le couple. Hein? Premièrement, on va perdre le sentiment d'appartenance. Être en couple, c'est être en groupe. Et l'être humain est de relation. Avoir tissé une relation qui a duré quelques mois, voire des années, hein? D'accord? Appartenir nous humanise. Appartenir au nous, à la maison couple, nous humanise, donne un statut social. C'est monsieur et madame. Hein? Donc on a construit quelque chose, il y a un nous conjugal, hein, qui est encore autre chose, un nous qui est là. Hein? Donc appartenir au couple nous confère une certaine raison de fierté. Hein? On est nous, on a une maison, on a une situation, on a des enfants, on est nous. Et ce nous donne à chaque jeu une position, hein, une nourriture, une appartenance. Voilà. Le groupe couple, par sa dimension sociale, va devenir la façade de la maison. Et on va voir des couples qui, uniquement pour garder la façade de la maison, resteront ensemble. Cette façade de la maison, ce nous couple, est plus fort, même si ça vous étonne peut-être, est plus fort que le nous émotionnel, que le nous sentimental, qui lui est très fragile. Donc sentiment d'appartenance. cette perte. Première chose, c'est là qu'on va perdre. Deuxième chose qu'on va perdre, c'est l'attachement amoureux. Hein? Vivre en couple, c'est avoir vécu une histoire d'amour. Hein? Un attachement amoureux, un sentiment que l'on est aimé, et un sentiment que l'on peut aimer l'autre. D'accord ? Et en réalité, derrière le sentiment amoureux, donc d'être aimé, d'aimer l'autre, d'être amoureux, comme vous préférez, et même si c'est dans le, un peu dans le passé, il y a l'idée et que c'est une partie de moi que j'aime chez l'autre. C'est une partie de moi que je suis tombé amoureux, dont je suis tombé amoureux chez l'autre. Et cette partie de moi que je vais devoir perdre si je ne suis plus avec lui. Or, ce n'est pas facile de perdre de soi. Hein? Voilà. Très souvent, on pense qu'on aime l'autre. Hein? Hein? En réalité, on s'aime soi dans l'autre. Hein? Je ne voulais pas vous enlever la poésie hein, de mon histoire. Hein? Mais tout départ de couple est pathologique. Hein? Il n'y a pas un couple qui ne marche pas sur un problème de pathologie. Simplement, nous fixons, nous tombons amoureux, comme vous voulez, hein, de quelqu'un qui a la même pathologie que nous, dans la polarité opposée. Sauf qu'on ne le sait pas. Hein? Et c'est nous tombons amoureux de ce qui nous manque. Hein? Voilà. Et donc, ce qui va se jouer ici, dans la séparation donc de l'attachement amoureux, c'est cette partie de moi que j'ai aimée chez l'autre, hein, qui me permettait de mieux vivre ma petite pathologie personnelle. Hein, là, c'est une petite pathologie, hein, c'est pas trop grave, hein, d'accord, hein, on a tous, hein, d'accord. Eh bien, c'est ça que je vais perdre, hein, voilà, hein, en perdant l'autre. C'est pour ça que je veux le retenir des fois, pour retenir cette partie de moi qui va s'échapper. Et puis, la troisième chose que je vais perdre en perdant le couple, c'est ce qu'on appelle l'objet transitionnel. L'objet transitionnel, vous le savez tous, c'est le petit chiffon, le nounours qu'a l'enfant quand il est petit qui lui remplace sa mère. Hein? Vous savez que l'angoisse de la séparation, hein, donc de la mère, l'enfant pour la gérer prend un nounou, hein, une doudoune, je ne sais pas que vous appelez ça, hein, d'accord, hein, et il le suce avec son pouce. Hein, ça peut être le pouce, ça peut être un bout de chiffon, un nounours comme ça. Et vous savez tous que l'enfant, ce doudou-là, est porteur pour lui de signification de la présence de la mère, hein, par l'odeur qu'il porte, par ce qu'il représente symboliquement, ainsi de suite. Ça lui permet de gérer une des trois grandes angoisses qu'a l'être humain, l'angoisse de la séparation. Et avec son doudou, il gère son angoisse de séparation. Le conjoint et mon doudou. D'ailleurs, on le dit, hein, mon doudou. Hein? Bon, c'est pas pour ça qu'on le dit. Hein. Donc, le conjoint, c'est mon doudou. Je l'ai choisi comme j'ai choisi un doudou pour me calmer mon angoisse de séparation de la mère. Vous savez que l'enfant, il préfère un doudou sale, déchiré. Vous lui dites, mais je vais te le changer, ton ours, là, ton petit machin, en peluche, il manque un œil, il a le nez déchiré, on l'a rapiécé comme ça. Vous ne pouvez pas le changer. C'est le sien, hein, vous avez vu ça, hein, d'accord. Là, eh bien, lui, il préfère garder le sale plutôt que pas de doudou du tout. Quoi. Ou même de doudou tout neuf. Vous voyez ce que je veux dire? Quand le conjoint est le doudou, hein, on est prêt à le garder comme doudou, même tout déchiré. Quoi. Même pas très beau. Quoi. Voilà. Donc ce qu'on va perdre dans le couple, ici, hein, c'est l'objet transitionnel. Et on ne peut pas vivre sans objet transitionnel. Qu'est-ce qui va calmer maintenant mes angoisses de séparation, si ce n'est pas l'autre que j'ai choisi pour cela, quoi. Hein? Donc, pour le conjoint, pour le couple, hein, l'autre, c'est le doudou, hein, comme ça. Un autre point qui pose le problème de la séparation, du divorce, c'est la blessure d'estime de soi. Hein? Divorcer, c'est recevoir, je vais dire un coup de poignard, hein, on va dire ça, hein, d'accord, c'est recevoir une blessure qui va raviver toutes les blessures que je pensais avoir guéries, hein, avoir calmées quand je me suis marié. Si j'étais timide, que j'ai voilà, hein, si j'étais un peu complexé, si j'étais un petit peu quelqu'un de hein, un peu renfermé sur soi, bon, peu importe, hein, le fait de me séparer va remettre à vif les blessures que j'avais pensées, la peur de la solitude, hein, que j'avais pensé calmer pendant le temps du couple. Ce qui est sûr, c'est que l'estime de soi, hein, cette image, hein, que nous avons de nous-mêmes, hein, positive en principe, voilà, va être sérieusement, hein, endommagée pour plusieurs raisons. Hein. D'abord parce que nous vivons ça souvent comme un échec, le divorce. Hein? Et que se regarder à partir d'un échec, ça risque un petit peu de déformer le prisme hein, de la vision des choses. Hein? L'estime de soi aussi blessée parce que la vie est en train de perdre sa couleur un petit peu quand on divorce aussi. Hein? Bon, hein? J'ai dit aussi ce qu'on pensait avoir réglé, tout d'un coup, et ça j'en parlerai un petit peu demain quand on parlera de reconstruire, hein, d'accord, ce qu'on pensait avoir réglé, bien revient à la surface. On se dit, mince, hein, moi qui pensais avoir dépassé tout ça, comme ça. Hein, voilà, nos petites faiblesses, nos défauts, hein, ainsi de suite. Hein. Pour se défendre de la dévalorisation de soi, hein, certains vont nier leurs faiblesses et accuser les autres. Hein? Voilà, alors pour les femmes, en principe, en général, je dis bien, il y a des cas particuliers, hein, bien sûr, hein, tout le monde est particulier de toute façon. Hein, voilà, en général, pour les femmes, on va plutôt vers la dévalorisation de l'autre, hein, du conjoint et l'ex-conjoint. Hein. Et si jamais l'ex-conjoint hein, a rencontré quelqu'un d'autre, alors la compagne de l'ex-conjoint qui ramasse tout. Hein. Voilà, à juste titre, peut-être d'ailleurs. Hein. Donc, hein, et pour se protéger encore de la blessure de l'estime de soi, certaines femmes jusqu'à dire, hein, oh, depuis le début, je le savais bien. C'est pas tout à fait juste, hein, c'est juste pour se protéger un petit peu qu'on dit ça. Pour les hommes, c'est différent. L'estime de soi, quand elle est blessée, peut les amener à ce qu'on appellera une forme d'abandonnique. C'est-à-dire, ils vont se laisser aller. Vous les voyez, hein, quand c'est eux qui subissent, hein, d'accord, quand c'est eux qui sont les initiateurs, c'est encore autre chose. Quand c'est eux qui sont lâchés en cours de route, hein, ce qui, j'ai dit, à peu près 6 fois et demi, 7 fois le cas aujourd'hui sur 10. Hein, parce que c'est les hommes qui s'en vont, les femmes qui s'en vont plutôt que les hommes aujourd'hui. Hein, ce qui est un changement fondamental dans la société. Hein, parce qu'avant, c'était 9 sur 10, c'était les hommes qui quittaient. Quoi. Donc, les hommes ils vont être dans cet abandonné, c'est-à-dire ils vont avoir un comportement de laisser aller. Et vous les voyez, hein, en quelques semaines, ils ont dégringolé. Quoi. Hein? J'ai veillé se rase moins, se lave moins, hein, d'accord, s'habille n'importe comment, hein, mange dans des boîtes à conserve. Hein, voilà. Hein, en peu de temps, la séparation va, je mets ça entre guillemets un petit peu, hein, les clochardiser. Quoi, hein, entre guillemets. Toute ressemblance et toute personne ayant existé. Ceci dit, ils font ça des fois, parce qu'ils ne sont pas très malins, hein, vous le dire, hein, ils pensent que, bon, hein, entre parenthèses, une femme qui s'en va, un homme ne peut pas concevoir qu'elle s'en va pour personne. Si elle s'en va, c'est pour quelqu'un d'autre. Il ne peut pas, dans son orgueil masculin, penser que sa femme le quitte pour rien, pour personne d'autre que lui, hein, qu'elle va vivre toute seule, hein, pour qui tu pars, quoi. Bon, ce qu'il a peur est en faux. Hein? Mais lui, dans sa façon de voir le monde, c'est pas possible. Hein? Donc, à part l'estime de soi, hein, ces blessures-là, il y a d'autres problèmes que va rencontrer la personne qui divorce. Et un des problèmes, c'est l'insécurité qu'a provoqué le discours de l'ex-conjoint sur la relation. Hein? Non seulement la relation va prendre fin, mais elle va être accompagnée très souvent d'un discours peu positif. Du style, hein, toi et ton caractère, hein, c'est l'un qui veut de toi, ben, bon courage à lui. Quoi. Il y avait un film qui disait ça, hein, si, hein, n'oublie pas ton Viagra en partant. Quoi. Hein. Bon, il y a des choses gentilles qui vont être dites, vous voyez, hein, comme cela. Quoi, hein, hein. Si quelqu'un veut vraiment déprimer chez lui, eh ben, il souhaite bon courage. Là, je suis gentil parce qu'on est en public. En principe, c'est pas aussi gentil. Donc, il y a tout un discours qui est dit sur la famille de l'ex-conjoint, sur le comportement sexuel de l'ex-conjoint. C'est l'intimité, c'est bien celui-là aussi. Hein. Et elle est là aussi. Hein. Sur l'aspect physique hein, de l'ex-conjoint, sur l'argent, le ménage, tout ce que vous voulez. Quoi. Voilà. Il y a tout un discours qui va accentuer. Hein.
Pardon.
Non, mais. Ça arrive. Si c'est Nicolas qui me le dit, hein. Je suis là, quoi. Donc, tout un discours. Hein. Et tout un discours, donc, qui va se justifier par le fait qu'on a été abandonné, quoi. qui va trouver comme une résonance dans la dinde, hein, dans la pensée de la personne, dans les émotions de la personne, hein, parce que, bon, on se retrouve tout seul, quoi. Et si c'était un petit peu vrai ce qu'il raconte, hein, que je ne suis pas terrible, que je ne suis pas ceci, que je ne suis pas cela. Donc, derrière hein, ce qu'on quitte, là, il y a toute cette insécurisation que produit le discours de l'autre. Divorcer, se retrouver seul, c'est aussi hein, entrer dans une traversée de désert. Je vous laisse le portrait, vous avez compris. Hein. Voilà, donc, trois éléments dans le désert qu'on va traverser. Le premier élément, c'est l'entourage. Quand je parle de l'entourage, je parle de la famille, hein, je parle des amis et souvent des collègues de travail. Et si vous allez dans l'église, l'église aussi. Ça ne va pas arranger les choses. C'est-à-dire que l'entourage, qui était très présent quand il sentait que le couple avait des problèmes, hein, chacun avec ses bons conseils sûrement, avec hein, ses prières, tout ce que vous voulez, qui était présent. Hein, pourquoi les gens sont présents, parenthèse, quand on sent qu'il y a de la séparation dans l'air? Parce que nous n'aimons pas la mort. Et un couple qui se sépare, c'est un couple qui meurt. Hein? C'est pas seulement deux personnes qui se séparent, c'est quelque chose qui meurt dans la création. Hein? Une relation qui meurt. Et nous n'aimons pas la mort. Et donc nous sommes prêts à jouer les sauveteurs pour que la mort ne soit pas autour de nous. Quoi. Hein? Donc les gens qui sont très présents avant la séparation vont disparaître aussi vite après la séparation. Un petit peu comme les moineaux, vous savez, quand vous tapez des mains qui viennent manger les miettes de pain, ou les pigeons, quoi. Donc ils étaient très présents avec leur conseil tout ça, et bien après ils disent, oh, on va pas prendre parti, on sait jamais, hein? D'accord, voilà. Il y a très souvent un vrai sentiment d'abandon de l'entourage, et pendant plusieurs jours, téléphone pas trop, hein? Voilà, hein? Les amis, ont tous des bonnes raisons pour ne pas trop, hein, voyez, venir entourer la personne qui se sépare, d'abord parce que des fois on ne sait pas que lui dire en plus, hein? Voilà. Donc l'entourage, le désert par rapport à l'entourage. Le désert va aussi être dans la personne elle-même, hein, bien sûr. C'est-à-dire qu'elle va adopter souvent une attitude un petit peu égoïste. On la comprend, hein, bien sûr. Quand on est blessé, on se referme sur les essentiels, hein, sur les fondamentaux. Donc elle va se refermer un petit peu à la réalité de l'autre, des autres. Blessée dans ses relations... Hein, ayant pas envie de se justifier, de raconter son histoire, de dire de prendre pitié, tout ce que vous voulez. Hein, donc elle va un petit peu ne pas aller trop chercher des relations et se renfermer hein, dans un désert intérieur. Quoi, hein. Et puis très souvent, hein, c'est comme un cercle vicieux, l'environnement, la personne elle-même en elle-même, et qui va étendre un petit peu son désert à tout ce qui l'entoure au sens large du terme. Hein, voilà, il n'y a rien qui est fait pour les gens seuls, on ne s'occupe pas de nous, il y a qu'à avoir des agences de voyage, hein, c'est jamais pour nous le voyage, hein, c'est toujours pour les couples qu'on fait. Quoi, hein, voilà, ainsi de suite, donc on va retrouver ça. Un des points aussi que rencontre la personne qui se sépare, qui divorce, et qui est long à gérer celui-là, et ça dépend des individus aussi, hein, c'est la culpabilité de la séparation. La culpabilité. Hein. Coupable hein, de ne pas avoir été capable de gérer, de sauver, d'appeler ça comme vous voulez, et de maintenir un couple. Coupable de ne pas avoir été capable. Ça, c'est un ménage qui marche très bien ensemble. Capable, coupable. Hein. Celui-là, il va très bien. Donc, coupable, hein, en se faisant des reproches à soi-même. J'aurais dû, il aurait fallu, si j'avais su, j'aurais pu voir, enfin, hein, voilà. La culpabilité qui va des fois se présenter comme une auto-punition. Hein. On va se priver des choses. Dans la culpabilité, il y a trois idées principales sous-jacentes à la culpabilité de la personne qui divorce. Il y a d'abord, alors je sais qu'on... une société de gens civilisés que nous sommes, hein, très intelligents. Mais il y a quand même culpabilité, la peur du châtiment. Nous vivons dans une société hein, qui est plutôt d'obédience catholique, et vous savez que la façon que l'Église catholique de voir le couple est une façon particulière dans la chrétienté par rapport aux autres grandes familles de la chrétienté. Hein. L'Église catholique pense que le couple, c'est fait pour toujours. Hein. Le mariage, c'est un sacrement. Ils ont le droit de le penser, hein, et c'est très bien comme ça, au moins on sait où on est. D'accord. Puis vous avez la famille orthodoxe, qui ont quand même pas mal de monde. Hein. Il y en a des orthodoxes, des gens qui sont de Russie aujourd'hui ici. Hein. D'accord. Donc la famille orthodoxe, qui ont pas mal de monde à la chrétienté, qui eux, pensent que le couple, comme la famille, en gros je fais ça, hein, la famille protestante, hein, dont on fait partie de l'église, et la famille évangélique aussi, le couple est plutôt une alliance qui était passée, et qui dit alliance, dit fin de l'alliance. D'accord ? C'est une alliance, ce n'est pas un sacrement. Hein ? L'Église protestante ne marie personne, il n'y a pas de sacrement protestant, orthodoxe ou évangélique du mariage. Hein ? Mais nous vivons dans un inconscient collectif catholique. Et il y a quelque part, un petit peu, cette culpabilité de la peur du châtiment. Hein ? Voilà, quelque part, je devrais payer un petit peu cette histoire que je suis en train de rater. Elle est très souvent inconsciente. Hein, je suis d'accord avec vous. Hein. Bon, d'autant que la plupart des gens ne se marient pas à l'Église catholique. Hein, la moitié ne s'y marie pas. Mais l'inconscient collectif, il demeure. Il demeure. Hein. Il ne faut pas croire que l'inconscient collectif, on tourne un bouton et ça s'arrête. Hein, comme c'est d'accord. Si on a eu un enseignement culpabilisant, évidemment, alors là, ça multiplie la puissance X, hein, d'accord. Hein, voilà, si on nous a fait croire. Hein, bon. Deuxième idée sous-jacente à la culpabilité, c'est la honte, l'indignité. Hein, j'ai parlé de la perte de l'estime de soi. Quoi, hein, c'est pas un titre qu'on revendique toujours. Hein, voilà. Hein, la honte, l'indignité. Et puis le troisième, c'est la solitude relationnelle par rapport à l'Église et à Dieu. L'Église donnera peu de responsabilité aux divorcés. Elle se méfiera d'eux. Elle leur demandera de faire des stages, des intoxications. Comme s'ils avaient attrapé un microbe. Les gens qui sont engagés dans les communautés vont voir leur engagement arrêté. Bien sûr. Bien sûr, ils ne diront jamais que c'est... Voilà. Comme pour se protéger de la peste. Donc, la peur du châtiment, la honte de l'individu, et la solitude que, des fois, met l'Église à ceux qui divorcent. Ce n'est pas dit aussi clairement que ça, des fois, mais c'est bien fait sentir. Voilà. Un autre problème qu'a le divorcé, on va voir comment il est géré après, d'accord ? C'est l'angoisse de l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant ? L'angoisse de l'avenir. Les relations qui vont devoir se reconstruire. Il est assez fréquent que quelqu'un qui divorce comme ça, qui se retrouve avec des relations fragilisées, j'ai dit un petit peu des zones de désert, ait envie d'aller retrouver ses anciens amis de faculté ou de jeunesse. Tiens, si j'allais le retrouver, ça serait peut-être sympa qu'ils sont devenus. Avec Internet, c'est facile aujourd'hui. Mais alors, eux, ils n'ont pas eu envie de voir arriver avec vos problèmes. D'accord ? Parce que quelqu'un de divorcé, quelqu'un qui est dangereux. On n'invite pas quelqu'un de divorcé à la maison. Non pas pour le punir, mais on ne met pas le loup dans la bergerie. Ou le renard dans le poulailler, comme préféré. Quoi. D'accord ? Donc, la personne divorcée doit s'attendre à ce qu'on ne l'invite. Autant on invite un couple pour une soirée, pour comme ça, autant on va un peu se méfier. Ça, qu'est-ce que ça peut cacher tout ça un petit peu ? Il y a comme une méfiance, d'accord ? Donc, l'avenir va apparaître assez fermé. D'accord ? Au niveau donc, des relations, de ce que je viens de dire, un petit peu comme ça. Un autre problème que je veux mentionner ici, à propos de l'avenir, c'est l'âge. Il n'y a pas d'âge pour divorcer, on peut divorcer à tous les âges, c'est pas gênant. Mais la personne qui divorce a ce raisonnement assez particulier, c'est assez connu ça, c'est qu'elle se dit, si j'avais 10 ans de moins, quel âge qu'elle est, entre parenthèses, si elle a 35 ans, si elle a 45 ans, 55 ans, 65 ans, 75 ans, c'est toujours 10 ans de moins qu'il faudrait pour pouvoir refaire sa vie. Ça, c'est hyper classique. Voilà. Mais oui, à 55 ans, quand même. Si j'avais 45 ans, je ne dis pas. Je verrais la vie différemment. Et si j'avais 45 ans, il dira 35 ans, je ne dis pas, je bon, ici de suite. Donc. On verra demain les problèmes que ça pose, si vous voulez, comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'angoisse de l'avenir l'amène à réorganiser un petit peu sa vie. Au niveau financier, ça, c'est celui qu'on va rencontrer le premier, entre parenthèses, le problème financier. Chacun sait que les pensions alimentaires, c'est difficile à faire payer des fois. D'accord ? En plus, il faut attendre que ça arrive, le jugement soit fait et tout ça. Bon, niveau financier, pas drôle. au niveau de l'activité intellectuelle. Il va falloir reprendre. Rentrer le soir, j'en parlerai demain ça. Rentrer le soir et se trouver avec son plateau de télévision devant la télévision, c'est super, mais c'est pas très nourrissant. Pas le plateau, la télévision, vous avez compris. Voilà. Au niveau relationnel, avec qui discuter, avec qui parler, avec qui partager. Sans que ce soit mal compris. Bien sûr. Quoi. Au niveau relations sociales, il va falloir, j'ai dit, reconstruire d'autres relations quoi, aussi. Et j'ai envie de dire aussi, excusez-moi, au niveau d'apparence extérieure. Voilà. En tout cas, le divorce, c'est le retour à soi, le retour à être seul. Et je voulais parler quelques minutes de la solitude que va rencontrer la personne qui divorce. Quelque chose qu'on a oublié, hein. Quand on vit en couple, avec un doudou même déchiré, hein, on a oublié ce qu'était la solitude, oublié ce que c'est que de rentrer seul le soir. Quand personne ne vous attend, hein, que vous ouvrirez la lumière et vous serez seul à vous regarder, hein, vous irez vous coucher, vous serez seul, vous irez manger, vous serez seul, d'accord. Des fois il y a les enfants, ça c'est pas facile non plus qu'il y ait des enfants, hein, cette histoire-là. Parce que ce ne sont pas des adultes, ils ne peuvent pas remplacer, bien sûr, hein, le conjoint. Je ne parlerai pas du rapport à la famille, enfin, si vous voulez, on peut en parler. Quoi. Quels sont les pièges de la personne qui vit seule, hein, comme cela, quoi. Un petit peu, quand on se retrouve toute seule, au bout de certains temps, après avoir dit « ouf, je suis tranquille, elle n'est plus là hein, », voilà. Donc je vous donne une liste de petits problèmes qu'elle peut rencontrer. Hein. D'abord, il y a l'apitoiement sur soi, hein, voire la déprime. Tout seul et encore seul. Il y a la rêverie, c'est-à-dire l'imaginaire. Pour fuir sa réalité où on est seul, on s'invente un futur rose. Hein? Le rêve, ça a toujours été la part des pauvres. Hein? Voilà. On s'imagine un futur rose. Hein? Bien sûr, c'est des contes de fées. Hein? Voilà. Il y a aussi l'égoïsme. Hein, c'est-à-dire un espèce de repliement sur soi. Pourquoi m'occuper des autres? Pourquoi penser aux autres? On m'a bien laissé tomber moi. Hein? Voilà. Hein? On peut trouver aussi l'indiscipline. Hein? Alors c'est le laisser aller. On mange sur le coin d'une table. Hein? On s'habille vite. Hein? On prend plus la peine de se maquiller. Voilà, une espèce d'indiscipline. Hein? À quoi bon? Personne ne me regarde. Pour qui je vais m'habiller? Hein? Pour qui je vais me... Voilà, hein? Personne ne me regarde. Et quand il me regarde, d'ailleurs, c'est pas très clair, en plus. Voilà. Hein? Il y a le révolté. Celui qui se promène avec sa solitude, hein, comme on se promène pour une manifestation syndicale. Hein? Et qui, dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour demander qu'on s'occupe de lui, qu'on ne fait rien pour les gens seuls. Hein? Voilà. Ça commence déjà au supermarché, quand il va acheter... Hein? De quoi manger, hein? Voilà, hein? Yaourt par 6. Quand c'est qu'ils penseront aux gens seuls un peu, hein? Hein? Et congelé, portion de 2. Mais je suis seul, hein? Comme ils ont commencé à comprendre un petit peu ça maintenant, hein? Qu'il y avait un marché de ce côté-là, ils commencent un petit peu à faire quelque chose de ce côté-là. Hein? Mais vous le voyez qui revendique, ça permet de surnager un petit peu. Ça ne construit pas grand-chose, avec ça on surnage. Il y a le résigné. Hein? Alors, lui, c'est le loser. Hein, hein, c'est fini quoi. Hein, il attend tranquillement la mort. Hein, qui ne saurait tarder, hein, vous le savez, hein, d'accord. Hein, voilà, le loser, le passif. Hein, aujourd'hui, et puis demain, à chaque jour suffit sa peine. Hein, d'accord. Hein, voilà, un petit peu. Quoi. Il y a celui qui vit, comment dire ça, un défoulement partiel. Alors, une fois par semaine, on se lâche. Hein, c'est la fièvre du samedi soir. Hein, il y en a même qui ont la fièvre du dimanche matin, mais enfin bon, hein, une fois par semaine on se lâche. Hein. Voilà, le reste du temps, ça permet de ne pas exploser complètement. Hein, voilà. Et puis, il y a ceux qui vont sublimer leur solitude, la compenser en s'engageant dans tous les mouvements caritatifs du quartier. Hein. Voilà, hein. Et puis, le dernier peut-être, il y a ceux qui font comme si rien n'avait changé. Vous allez chez eux, il n'y a rien à changer. Le lit est au même endroit, c'est le même lit. Hein? C'est les mêmes meubles, les mêmes choses, les mêmes décorations. Hein? Comme si. Comme s'il n'était pas là, comme s'il allait revenir. Comme si. On vit dans le comme si. C'est pas le meilleur non plus, vous avez compris ça aussi, le comme si. Quoi. Et puis il y a la. J'en dirais un mot, hein, il y a la solitude sexuelle. Hein. Dans un premier temps, après le divorce, la libido passe à zéro. Hein. Le choc de la séparation fait tomber hein, la libido. Hein. C'est un temps assez pas très long hein, qui est là. Après cela, eh bien, c'est le contraire qui va se passer. Hein. C'est que la libido va être plus forte que ce qu'elle était dans le couple avant. Intéressant. D'accord. Si bien, les statistiques montrent, écoutez-moi bien, hein, donc les statistiques montrent que quelqu'un qui vit seul, hein, qui était marié qui vit seul, un solobataire on appelle ça, hein, a plus de relations sexuelles seul que quand il était en couple. Cherchez le problème. Hmm, voilà. Statistiques, hein. Il y a des moments où la solitude est pénible de la personne divorcée. C'est dans la réunion de famille, par exemple. Un mariage, c'est formidable, il vient divorcer. Hein. De joie, c'est un week-end de joie là devant lui. Mais non, vous avez compris. Hein. D'accord hein. Avec les remarques de la tante qui dira « Et alors ? Et toi, c'est pour quand tu refais ta vie ?» C'est toujours du bien, la tante machin qui dit ça. Hein. D'accord. Donc, les réunions de famille... difficile aussi les fêtes du calendrier, hein, quand tout le monde est un petit peu, hein, et qu'on se retrouve un petit peu tout seul. Le temps des vacances, hein, où on va aller à vacances, pourquoi y faire, avec qui, hein, le temps des vacances. Les week-ends, on arrive même à attendre la fin du week-end avec impatience, qu'on retrouve les collègues de travail. Voilà. Et les soirées, les longues soirées. Alors demain, j'essaierai d'apporter, pas des solutions, hein, mais des choses pour gérer tout ça, hein, si vous voulez. Ah, je ne vous parle pas du cinéma et des restaurants. Vous êtes allé au restaurant tout seul, bien sûr, vous le savez. Hein. Quand vous rentrez, qu'est-ce qu'il vous dit le garçon? Vous êtes combien? Hein. Première question, vous êtes combien? Bon, je comprends, son métier veut avoir une place. Si vous dites que je suis seul, il regarde discrètement la table qui est près des toilettes, là-bas, toute seule. Quand vous y placez, vous savez qu'il est à la porte d'entrée, il a les courants d'air. Il est rare quand vous êtes seul. Démentez-moi, je lui dis, c'est pas vrai. Hein, il vous donne la place au centre du restaurant, hein, toute seule. Hein, d'accord, hein, il vous place dans un coin. Essayez de vous trouver un coin là-bas, hein, comme ça. Hein, voilà, hein, tout seul. Ah bon, hein, tout seul. Et je disais le cinéma, les grands magasins. Quand vous allez au cinéma, hein, vous sortez du cinéma, on aime bien partager ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a, hein, un petit peu, comme ça, critiquer le film, ça fait du bien un peu. Hein, comme ça. Bon, avec qui vous allez le faire? Pendant le mois du cinéma, vous oubliez la solitude. Et en sortant, elle est sur le trottoir, elle vous attend. Hein. Je ne vous parle pas des grands magasins pour faire des achats. Hein. Là, bon, on a toujours les copines pour ça. Bon, ah, j'ai fait toute une liste. Là. Les commerces de proximité, vous savez, les petits commerces d'alimentation de proximité. On va acheter ce qui nous manque le soir en vitesse comme ça. Alors, Madame Machin, toujours seule hein? Ça fait toujours plaisir. Hein, voilà. Et l'appartement qui est trop grand. Hein? Et le lit, hein? Aussi trop grand. Quoi, c'est pas facile de vivre seul. Hein? Voilà. Alors, comment faire face à tout ça? Moi, je dirais ce qu'il faut éviter, hein? C'est. De se mentir à soi-même. C'est pas facile d'être seul. C'est pas facile d'affronter hein, non seulement une rupture et tout ce qu'elle veut dire, voilà, je vais parler maintenant, hein, et en même temps, ce problème qu'on n'avait pas prévu, la solitude qui vient se greffer dessus. Donc, l'idée, c'est de ne pas se mettre derrière son petit doigt hein, et de se raconter des histoires. C'est difficile de vivre seul. C'est pas valorisant. Hein. C'est vrai qu'il y a des avantages, hein, on a la liberté, on rentre quand on veut, hein, on est responsable de personne, sinon de nous, hein, à peu près. Voilà, on a les horaires qu'on veut avoir, mais en fait, ça délimite cette histoire. Hein. Donc ne pas se leurrer, hein, comme cela. Quoi. Et puis, je dirais, il faut avoir savoir se protéger. Hein. Il faut apprendre, quelqu'un qui vit seul, après avoir été marié, hein, un couple, quelqu'un qui doit apprendre à poser des limites. Quand on est en couple, la décence veut qu'on vous drague pas trop. Homme ou femme, d'accord ? La décence. Bon. Hein? Dès que vous êtes seul, hein, les cartes sont redistribuées. Hein? Vous êtes une occasion possible. Et alors là, vous avez sur le marché toutes sortes de disponibilités. Il faut être très clair ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Jusqu'où on peut aller dans une amitié, hein? Bon, il faut ne pas aller, hein? Voilà. Si on n'est pas très clair sur les limites qu'on veut poser à l'autre, chacun aime où il veut, hein? D'accord? Bien, on va avoir des petits problèmes, hein? Enfin, hein? Voilà, c'est pas des problèmes, c'est. Hein? Moi, je pense quand même, si vous dites la vérité, que quelqu'un qui vit seul vaut mieux que des miettes. Je vais expliquer où ça va. Hein? D'accord ? Il vaut mieux que des miettes de vie d'un autre. Hein? Ce n'est pas valorisant de ramasser les miettes de la table là où un autre a mangé. Ce n'est pas valorisant, quoi. Moi, je ne condamne personne en disant ça. Je dis simplement que ce n'est pas valorisant. Hein? Je sais que quand on meurt, on meurt. Hein? On s'accroche à tout ce qui passe quand on meurt. Hein? C'est vrai. Les lois de survie ne sont pas les lois de vie, je le sais aussi. D'accord. Alors, vous allez rencontrer, hein, toute une série de gens. Il y a le disponible, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le presque disponible, le bientôt disponible, hein, le pas encore disponible, hein, vous voyez, hein, et le pas disponible du tout. Ça n'empêche pas ce de, hein, d'être là quand même. Juste, je veux dire ça par rapport au presque disponible, bientôt disponible, pas encore disponible. Là, vous voyez, une tranche très intéressante. Les chiffres montrent que quelqu'un qui dit, hein, je vais être disponible bientôt, et qui dans les 3 mois n'est pas disponible, ne le sera jamais. C'est clair. D'accord, hein? Voilà. Alors, quand on entame une relation, des fois on entame avec quelqu'un qui est presque disponible. Hein? Et le presque disponible, je vous dis, si dans les 3 mois il n'est pas complètement disponible, il ne le sera jamais. Je ne suis pas un enfant de cœur complètement, hein? Même si, hein, je suis là. Hein? Dans les relations d'adultes et après divorce, on passe très vite aux actes. Hein? Très, très vite. Beaucoup plus vite qu'on pourrait le penser avant. Donc il faut avoir une vision de ce qu'on veut, hein, et de ce qu'on ne veut pas par rapport à soi. Je ne suis pas sûr que d'être, hein, avec, comme je disais tout à l'heure, des miettes, hein, ou quelqu'un d'autre a mangé avant nous, eh bien c'est quelque chose qui nous donne une bonne image de nous. Peut-être ça permet de ne pas mourir, mais ce n'est pas, hein, quelque chose qui nous nourrit, hein, convenablement. Il y a le petit problème que les hommes et les femmes, et je vous apprends en disant ça, hein, fonctionnent différemment, hein, au niveau de la sexualité. Hein. Vous savez que les êtres humains ont 2% de différence avec les chimpanzés. Les gorilles, pardon, les gorilles, excusez-moi, les gorilles. D'accord ? 2% de différence au niveau génétique, on a, les êtres humains et les gorilles. C'est pas beaucoup, 2%. Hein. Mais pourtant, quand vous voyez rentrer quelqu'un, hein, vous voyez si c'est un gorille ou un être humain. Non ? Quoique. Hein, d'accord, 2%. Hein, c'est pas beaucoup, c'est énorme. C'est toute la différence qu'il y a entre, hein, l'animal et l'être humain. Ça, on a important qu'on nous le dise qu'on a, hein, 98% de commun avec le gorille, hein, que 2% de différent. On aimerait le contraire, hein, mais c'est autre chose. Bon. Entre un homme et une femme, d'accord, hein, cette fois-ci, vous savez combien de différence, hein, 5%. Il y a plus de différence entre un homme et une femme qu'entre l'être humain, hein, et un gorille. Cherchez l'erreur. Hein? Donc je veux dire, on est très 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 différents les hommes et les femmes. Je donne juste un exemple pour ce qui est de la sexualité et qui pose problème, enfin qui pose problème, qui peut être un malentendu, hein, dans la relation homme-femme. Dans l'ordre du tiercé gagnant, je vous donne, pour les femmes, c'est d'abord le bras que j'ai besoin. Hein, le bras, c'est le symbole du soutien, de l'aide, hein, de l'appui ponctuel même. D'accord ? Avoir quelqu'un sur qui on peut compter quand il y a un problème, ça c'est important, c'est le bras. Hein. Ensuite, hein, ce qu'elle a besoin, c'est une épaule. Le bras, l'épaule. C'est symbolique. L'épaule représente le fait d'être compris, écouté, hein, encouragé, ronronné, relaxé, en sécurité. On a besoin d'une épaule, hein, pour faire le chat. Hein. D'accord, vous avez compris. Hein, ronronné. Donc l'épaule représente, j'ai dit, ce côté-là. Hein. Et puis en troisième, et uniquement en troisième, après avoir hein, le bras, l'épaule, le sexe. Et de cela, l'ordre. Hein. Et chez les hommes, devinez. Hein, c'est exactement le contraire. Hein. C'est parce qu'il veut le sexe, qu'il sait qu'il y aura le sexe, qu'il donnera son bras et son épaule. Hein. D'accord. Donc quelqu'un qui vit seul, hein, qui a besoin d'un bras et qui demande à un collègue de travail de venir l'aider. Il demande, c'est une femme, elle demande un bras. Ça s'arrête là. Hein? Mais le monsieur qui va aider, lui, ça commence là. Ça s'arrête pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un malentendu ici que, bon, qui est dans les coupes aussi, mais qui est là comme cela. Quoi, hein? Voilà. Donc, il y a beaucoup d'autres, hein? On ne va peut-être pas les prendre maintenant. Quoi. Alors, je voulais parler de ce qui me semble le plus important par rapport au divorce maintenant, c'est le travail de deuil. Hein. Vraiment, maintenant, il va falloir tourner la page de tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été là, pour pouvoir en écrire une nouvelle. Il ne s'agit pas d'oublier les choses, hein. Personne ne peut oublier ce qui s'est passé, bien sûr, hein. Mais le travail de deuil. Le travail de deuil, c'est le cheminement qu'il faut pour que ça entre du champ du conscient dans le champ de l'inconscient, ce qui s'est passé. Il y a un temps hein, où ce que j'ai vécu hein, légalement doit entrer jusque dans le légitime. Le travail de deuil est pour faire mourir le légitime. Vous rappelez, légal, légitime, hein, parental. Le travail de deuil ne va pas toucher au parental. Hein, il ne touchera pas au légal parce que lui, ça s'est très vite fait, cette histoire. Hein, d'accord. Mais le légitime, le travail de deuil est pour la sphère du légitime. C'est quoi un travail de deuil pour un couple qui se sépare, pour les conjoints qui se séparent? C'est premièrement de pouvoir arriver à un moment, à la fin de ce travail, qu'on va voir ensemble, pouvoir arriver à dire, hein, voilà, de reconnaître et dire les sentiments négatifs et positifs que j'éprouve à l'égard de mon ex-conjoint. D'accord? Arriver à dire les sentiments négatifs et positifs que j'éprouve hein, aujourd'hui à l'égard de mon ancien conjoint. C'est deuxièmement, reconnaître et dire en quoi cette relation a été importante, stimulante, difficile et pénible. Hein? Elle a été importante, elle a été stimulante, elle a été difficile, elle est devenue pénible. Et maintenant elle va mourir. Hein? Troisièmement, c'est penser sa vie. Avec un E, bien sûr. Penser sa vie maintenant comme porteuse de nouvelles possibilités et d'épanouissement et d'avenir. C'est penser sa vie comme porteuse de nouvelles possibilités. Nouvelles possibilités, c'est d'amour, vous avez compris que je dis ça ici. Hein? D'accord. Hein? D'amour, d'épanouissement et d'avenir. Quand on a ces trois points, on peut dire que le travail de deuil est fini et qu'on peut réécrire une nouvelle page. Il faut, dans le meilleur des cas, hein, dans le meilleur des cas, il faudrait 1 an et demi pour faire un travail de deuil. À condition qu'on le fasse bien et accompagné. Ça peut durer 10 ans, 20 ans. Moi, je vois des gens, vous les rencontrez, là, vous les rencontrez 3 ans plus tard, ils n'ont pas bougé. Ils sont toujours fixés à une étape. Hein. D'autres, pour éviter le travail de deuil, hein, vont recommencer une relation tout de suite. Pourquoi? Alors, c'est du copier-coller qui fait, vous avez compris, hein, qu'ils font, hein, d'accord hein. C'est surtout les hommes qui font ça. Ils sont pas malins, hein. Franchement, ils sont pas malins. Ils sont pas malins, quoi. Ils sont pas malins, celles qui les prennent, entre parenthèses. Parce que, hein, parce que c'est du copier-coller, quoi. Hein. Je veux dire, bon, je peux dire du mal de mon ex pour faire plaisir à ma nouvelle, d'accord. C'est pas pour ça que je fais mon travail de deuil. Donc le travail de deuil. Vous vous rappelez que le travail de deuil, c'était franchir des étapes. Je n'ai pas les marquer, hein. D'accord. Voilà. Le travail de deuil, c'est ça. C'est ici, c'est le moment du divorce. On va faire une descente. Hein, j'allais dire aux enfers, hein, d'accord, hein, et si cette étape, ces étapes-là sont très longues, celle-ci est très courte. Hein, donc au niveau temps, hein, mon échelle n'est pas juste. Hein, il faudrait que je vienne jusqu'ici et hop, rapidement ici. Quoi. Ici, c'est l'affaire de quelques semaines, quelques jours. Hein, ici, la dernière étape. Et en plus, c'est comme cela. Si je le mets en 3D, c'est comme ça. Vous voyez ? Donc, je passe, j'avance, je repasse d'une autre manière ce que j'ai vécu deux ou trois fois, hein, et puis je saute l'étape, je repasse, je lis. Voilà. Ce qui veut dire que le travail de deuil, hein, une étape, si on la dépasse, on y repasse des fois de temps en temps, avec la, en mettant la caméra un petit peu ailleurs. Hein. Voilà. Dans le travail de deuil, il y a deux couples à faire mourir. Il y a d'abord le couple idéal, celui que j'ai rêvé que je construirais et que je sais maintenant que je ne pourrais plus construire. Hein, le couple du grand amour, le couple unique, le couple d'amour, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le couple idéal, c'est ce couple idéal qui nous culpabilise, entre parenthèses, hein, celui-là quoi. Hein, et puis, d'après, le deuil de mon couple, qui n'était pas le couple idéal, même j'avais pensé qu'il pourrait être le couple idéal. Hein, donc il y a, finalement, il y a oui, encore deux couples qui doivent mourir dans le travail de deuil. Quoi, hein. Le couple idéal et le couple donc, réel, hein, l'imaginaire et le réel. Alors, dans le travail de deuil, la première étape, elle est toujours la même, vous la connaissez. Hein. Ce sont des choses qui sont connues, j'ai, dans le domaine public, j'ai envie de dire tout ça, mais je me permets de les adapter donc, au couple qui divorce. Hein. La première étape, c'est le refus de la réalité. Hein. C'est pas possible que ça m'arrive, hein. Pas à moi, pas à nous. On s'était donné des promesses, des bases, des tout ce que vous voulez. On avait mis dans le couple légitime tellement de choses que ça ne pouvait pas nous arriver à nous. Hein. On est toujours plus malin que les autres, entre parenthèses, hein, ces histoires-là. Quoi. Je me permets de dire hein, que personne aujourd'hui, hein, c'est pas vous faire peur, je dis ça, hein, d'accord, aujourd'hui, personne n'est à l'abri d'un divorce. Personne, personne, personne. Voilà, je suis clair. Hein, voilà. On pourrait expliquer ça pourquoi. Donc, le refus, c'est l'amortisseur, vous le savez. Hein, c'est ce qui permet que le choc ne nous déstabilise pas complètement. Hein, en pensant qu'il va revenir, qu'il va se ressaisir. Et si vous êtes chrétien, c'est pire. Hein, je vous le dis franchement. Quoi. C'est plus difficile de faire le deuil avec un chrétien qu'avec les autres. Parce qu'il y a toujours le joker du Seigneur hein, qui va faire quelque chose, qui ne peut pas nous laisser, qui ne permettra pas, hein, hein, et qui va faire revenir, et qui va, hein, d'accord. Le mariage n'est pas le problème de Dieu, c'est le vôtre. C'est pas Dieu qui se marie, Dieu est asexué, il n'a pas ces problèmes-là, lui, hein, d'accord. Il y en a d'autres peut-être avec nous, mais pas celui-là. Donc, cette idée, alors bien sûr, hein, dans le refus, il y a toujours le voisin, la voisine, la copine ou le copain qui vous voulez, et qui vous donne un livre avec un témoignage qu'aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, je ne sais pas où, hein, d'accord, c'est jamais chez nous de toute façon, hein, d'accord, hein, quelqu'un, après tant d'années de patience, de persévérance, de prière, de jeûne, de grève de la faim, tout ce que vous voulez, hein, et je suis gentil, il est revenu. Hein, comme le fils prodigue. Hein. Entre nous, hein, quand ces choses-là se... j'ai pas le temps de tout dire ce soir, hein, mais... Non, j'arrête là. Non, parce que vous lirez, vous verrez ça. Ce que je voulais dire, c'est que si ça se reproduisait, ça serait une catastrophe. Voilà. Imaginez qu'elle revienne, hein, qu'est-ce qui a changé pendant les deux mois hein, où vous avez pleurniché sur vous-même. Ça y est, maintenant j'ai compris, parce que ça, on va le voir avec le marchandage, hein, dans le travail de deuil, je vais en parler avec le marchandage. Je le mets de côté jusqu'au marchandage, ce que je viens de dire là. Hein. Voilà. Donc le refus, il est très souvent alimenté par des fausses doctrines, des illusions, hein, d'accord, et qui va donner des désillusions. On faisait la formation cet après-midi, hein, j'ai parlé des gens qui ont des désillusions. Hein. Je me dis, j'ai une désillusion. Si on a une désillusion, chers amis, c'est très simple, c'est parce qu'on avait des illusions, qu'on n'était pas dans le réel. Si je suis dans le réel, je n'aurai pas de désillusion. C'est quand je suis dans un schéma totalement artificiel, illusoire, hein, qui ne colle pas au réel, fantasmatique si vous voulez, alors j'ai des désillusions. Ça, c'est vrai. Hein. Donc, le refus est nécessaire pour un temps assez court, quelques semaines, on va dire. Hein. D'accord ? Voilà. Hein, où ça permet d'amortir le choc. Il y a un philosophe danois qui a dit « L'homme, et ça, c'est terrible comme phrase, l'homme préférera, alors l'homme c'est lui-même, hein, préférera naturellement la mort à la vérité sur soi. L'homme préférera naturellement la mort à la vérité sur soi. Dans le déni, c'est ce qui se passe. Je préfère mourir psychologiquement par là, ne plus avoir une possibilité de reconstruire quelque chose, embêter mes enfants, ma famille et tout le monde, hein, y compris le Seigneur, plutôt que de voir la vérité. Oui, je vis un échec. C'est un échec, oui, c'est vrai. Je n'ai pas dit un péché, hein. J'ai dit un échec. C'est un échec. Et personne ne dira que le divorce n'est pas un échec. Hein. Mais un échec n'est pas la mort. Hein. L'échec peut nous permettre de rebondir aussi des fois. Voilà. Donc, il y a beaucoup de fausses promesses. Hein. Mais on avait demandé la bénédiction de Dieu. Mais on avait, hein, on s'était marié à l'église. Il y a tout. Hein. On peut tout sortir ici, tout est valable. Hein. Voilà. Pour maintenir une fausse espérance. Pour être dans le refus. Ouais, dans un mécanisme de défense, hein, qui est le refoulement, finalement. Quoi. Assez connu. Quoi. Bon. Un jour, il faudra bien voir la vérité. Oui, il est parti. Ou elle est partie. Hein, c'est plus souvent le cas, j'ai dit comme ça. Il faudra sortir du déni et il faut du courage pour affronter la réalité. Hein. Alors, en disant ça, on va vous traiter que vous manquez de ceci, que vous manquez de cela. Bon, les faux prophètes n'ont jamais été des bons. Hein, voilà. Hein. Bien. Le déni de la réalité n'a jamais été positif à long terme. En tout cas, il n'a jamais permis de construire quelque chose. Ça prend plus d'énergie pour garder le ballon au fond de la piscine que pour jouer avec lui. Vous avez remarqué ça, hein? D'accord? Voilà. Et en plus, quand vous êtes fatigué, le ballon, vous le reprenez à pleine figure. Hein? Voilà. Hein? Voilà. Oui, c'est j'ai souffert. Oui, je souffre. Oui, je souffre. Oui, il est parti. Oui, elle est partie. Mais c'est comme ça. Hein. Voilà. Alors, l'étape qui va nous permettre de dépasser le déni, hein, qui est formidable, hein, et à ne pas sauter surtout, hein, surtout à ne pas sauter, qui est celle qui, je crois, va nous permettre de nous retrouver nous-mêmes, c'est la colère. Hein. Alors là, j'aime. Hein. D'accord. Il faut que la colère, parce que je suis en train de comprendre que je vis une injustice, hein, voilà, que ce n'était pas ce qui devait arriver, ainsi de suite, même si je me reconnais des petits torts, hein, mais ça c'est pour la galerie que je le dis, en réalité, je vis une injustice. Et je le dis. Et quand je vis une injustice, hein, je dois pouvoir dire ma colère. Et celui qui vit une séparation, un divorce, va devoir exprimer sa colère. Il faut l'aider à dire sa colère. Et la colère doit être à plusieurs niveaux. Premièrement, la colère contre le conjoint qui vous a quitté. Hein? La colère contre les gens autour qui vous ont mal aidé. Hein? Même s'ils l'ont bien fait. C'est pas grave. Hein? D'accord? Voilà. La colère contre les parents qui n'ont pas compris bon, l'environnement. Et ensuite, aussi, la colère contre Dieu qui n'a rien fait. Alors que vous l'aviez demandé de faire quelque chose. Il faut que votre colère remonte jusqu'à Dieu. Hein? Tant qu'elle n'est pas allée jusqu'à Dieu, elle n'est pas finie. Il y a encore un tabou à passer. Quoi. Hein? N'ayez pas peur, Dieu a l'habitude. Hein? D'accord? Ça ne va pas le bousculer. Hein? Il a l'habitude d'entendre nos colères et il sait pourquoi, il nous le laisse dire, comme Job. Hein? Peut dire sa colère. La colère doit être dite, doit être exprimée. Hein? Ça veut dire qu'il faut se donner le droit à la colère. Il faut se donner le droit à la colère. Si on est dans une position, je dirais, de pensée, de croyance qui nous interdise la colère, ça va être difficile. Voilà. D'abord, donner le droit à la colère de manière générale, de dire sa colère. Ensuite, de dire sa colère à la personne qui nous a fait du mal. D'accord? Dire sa colère en général, c'est bien gentil, mais c'est par rapport à cibler la personne. Voilà. Hein? Et puis, dire la colère par rapport aux conséquences de la chose. La colère n'est pas une révolte, la colère n'est pas la violence, d'accord? C'est justement quand on ne dit pas la colère qu'on est tenté de passer dans le passage à l'acte. La violence, alors, hein? Voilà, la révolte. La colère, c'est de dire, hein, vraiment l'injustice, la souffrance et l'injustice qu'on est en train de vivre. Pour ne pas dire leur colère, hein, pour ne pas oser la dire, hein, parce que la colère, c'est comme la souffrance, hein? Ça nous situe en sujet. La colère nous fait dire « je », hein, comme la souffrance nous situe en sujet, ou le plaisir. Hein. Mais ici, c'est plutôt la colère que le plaisir hein, qui nous fait dire « je ». Donc, pour ne pas dire la colère, on va voir les gens développer des maladies psychosomatiques. Et si on fait les statistiques, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de maladies psychosomatiques dans les gens qui se séparent parce que on ne les a pas toujours aidés à dire leur colère jusqu'au bout. Hein? Des fois, on leur dit, oui, c'est, pas, c'est vrai que c'est difficile ce que tu vis. Enfin, hein, tu dois accepter ton sort. Hein? Voilà, quoi, hein? Quand même. Tu, hein? Bon, hein? Tout le monde n'est pas blanc-blanc. Hein? Voilà, hein? Chacun a sa responsabilité. Avec des discours comme ça, on ne va pas très loin. Hein? Donc, la colère. Si on ne veut pas développer beaucoup de petits problèmes à côté, comme ça. Hein? De grâce. Je vous le dis ici, hein, de grâce. Quand vous dites de colère, hein, d'accord, c'est pour vous situer en sujet. Hein, et ne sautez pas la phase colère par le pardon. Ça ne marchera pas. D'accord? Ça ne marchera pas. Moi, j'ai vu ça souvent. Hein, c'est que pour se aller plus vite, ou je ne sais pas quoi, pour éviter de se rencontrer dans l'injustice qu'on vit, on dit, ben, je lui pardonne, on n'est pas parfait, d'accord. Mais le pardon n'est pas placé ici, il n'a rien à voir ici, le pardon. Je suis désolé de vous le dire, hein, d'accord. Le pardon ici, c'est un cataplasme sur une jambe de bois, hein, tout à fait, quoi, hein, d'accord. Et quand on va gratter un peu plus tard, on va se rendre compte que l'étage qui est là, il n'est pas construit, hein, d'accord. Donc, voilà, rien à voir avec le pardon ici, hein, si vous me permettez. Quoi. Après la colère, hein, contre Dieu et tout ça, puisque rien ne change. Hein. Bien sûr, avoir dit mon injustice, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me récupérer moi, hein, d'accord, sortant de déni, je me retrouve, la colère. Je vais passer à l'étape du marchandage. Celle-là, je l'aime, cette étape, parce qu'elle est, terriblement malhonnête. Vous avez compris qu'elle dit que je l'aime. Hein. C'est-à-dire que dans le marchandage, on est prêt à tout à condition que. Hein. Ici, le marchandage est un peu plus difficile que pour un deuil, par exemple. Dans un deuil, je suis sûr qu'il ne reviendra pas. Quoi. Mais là, on ne sait jamais, hein, d'accord, s'il revenait. Quoi. Donc, dans le marchandage, hein, je suis prêt, j'ai compris maintenant. Ah, je vous promets que j'ai compris. C'est vrai que j'étais un mari un petit peu, bon, un peu volage, hein, peut-être. J'étais un mari qui faisait un peu ce qu'il voulait. J'étais un mari pas très sérieux, ou bien pas très travailleur, ce que vous voulez. Quoi. Bon, pas très attentionné, qui communiquait pas beaucoup. Ah, mais maintenant, je te promets, chérie, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris ce que je te dois. J'ai compris qui tu es. Il n'a rien compris. Je reviens à ce que j'étais là tout à l'heure, hein, d'accord, hein. Voilà, il n'a rien compris. Hein, d'accord. Sauf qu'il est un marchandage. Hein, et qu'on est prêt, hein, à tout lâcher pour peu qu'on retrouve son doudou. Rappelez-vous ce qu'on a perdu, le doudou. Hein, d'accord, hein, ce qui réveille en nous l'angoisse d'abandon. C'est pas rien l'angoisse d'abandon. C'est une des trois angoisses fondamentales de l'être humain. Hein, d'accord. Voilà, donc... Pour retrouver son doudou, on est prêt à tous les marchandages. Et je viendrai à l'église, ou j'y viendrai plus, et pour les enfants, ou pas les enfants, et l'argent est pas... Voilà. Si vous croyez le marchandage, alors, c'est raté, hein, derrière. Hein. Qu'est-ce qui vous permettrait de croire qu'il a changé? Parce qu'il dit qu'il a changé. Alors là, ça va durer 8 jours, hein. Ah, mais j'ai compris, chérie, tu sais maintenant, ouais, j'ai compris, et je dis, il n'a rien compris, quoi. Ça va durer 8-10 jours, hein. Il va faire des efforts pour montrer qu'il a compris, et après, on a tous des témoignages de ça, hein. Et après, ça revient, comme c'était avant, sinon pire. Hein. Le marchandage, hein, a pour but de faire bouger les choses un petit peu, hein, que ça revienne un peu comme c'était, quoi, hein. Je vais parler d'un marchandage que je trouve détestable. Hein, et le mot est petit. Hein. C'est le marchandage qu'on fait avec les enfants. Quand on met les enfants, dans un couple qu'il y en a, dans le marchandage. Les enfants, eux, doivent savoir que si les parents divorcent, vous le savez, eux ne divorceront jamais de leurs parents. Hein, ça, on le sait. Hein. Ils ne doivent jamais devenir l'objet de chantage entre les conjoints, ex-conjoints. Le chantage que je parle ici, c'est un chantage plus subtil que ça encore. J'ai vu des parents, et je dis c'est lamentable. Pardon si vous l'avez fait, vous allez vous repentir. J'ai vu des parents qui, dans le marchandage qu'ils faisaient avec Dieu, mettaient leurs enfants. Ça se faisait comment? Simplement. Voilà un divorce, un petit gamin de 4 ans, hein, 5 ans, 6 ans, peu importe, quoi, qui souffre parce que son papa n'est pas là le soir. C'est normal. Hein. Il aurait mis dans son père et sa mère. Vous savez que si le couple divorce, les enfants ne divorceront jamais, ils n'accepteront jamais le divorce. Quel âge qu'ils aient, hein, qu'ils aient 1 an, qu'ils aient 18 mois, hein, qu'ils aient 18 ans ou 40 ans, les enfants ne peuvent pas accepter par définition le divorce des parents parce que ce serait couper leurs racines en deux. Dans tout ce qui est symbolique de leur vie, ils vont toujours voir leurs parents ensemble. Hein? Et on le voit avec des scènes des enfants à l'école, on le voit le jour de leur mariage. Le jour de leur mariage, qu'est-ce qu'ils veulent? Les deux parents ensemble. Et le conjoint qui est avec le parent, il va à la pêche ce jour-là. Quoi. Tu lui fais toujours plaisir quand il a élevé le gosse. Hein? Hein? Alors que l'ex-conjoint l'a complètement oublié. Quoi, hein? Voilà. Donc, et quand il est malade, il veut ses deux parents. Lui, symboliquement, ses parents. Et dans ses rêves, il rêve ses parents ensemble. Il ne peut pas être divisé en lui-même. C'est ses racines. Et on ne peut pas couper les racines de quelqu'un, ça le tue quelque part. Quoi. Donc quand on met les enfants comme ça, hein, dramatiquement, en faisant prier un enfant, ce que je veux dire, enfant, c'est courant. Hein, j'ai vu des parents qui faisaient prier leurs enfants pour que le parent revienne. C'est grave. Hein, c'est déstructurant pour l'enfant. Ça, il faut absolument l'éviter, vous avez compris, hein, bien sûr. Quoi. Toute forme de chantage, de marchandage dans lequel on met les enfants. Hein, un petit peu comme ça. Donc le marchandage, j'ai dit, c'est quelque chose d'intéressant parce que... Voilà. Alors, maintenant, on peut sortir du marchandage négatif en faisant un marchandage positif. Hein, qui est quoi, hein? Eh bien, oui, je divorce, oui, je perds, oui, j'ai plus mon doudou, tout ça c'est vrai, hein, mais qu'est-ce que je vais gagner? Je vais gagner quelque chose. Et peut-être c'est intéressant de savoir ce que vous allez gagner. Peut-être pas l'auto tout de suite, hein, mais vous pouvez espérer gagner, hein, une maturité, hein, une liberté, une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle occasion de vous construire. Voilà. Hein. Alors, ni le déni, ni la colère, ni le marchandage n'ont fait bouger les choses. Mais il ne reste plus qu'à déprimer. Hein. Et là, vous êtes vraiment en bas. Hein. D'accord. Voilà. Vous asseyez sur votre arbre et vous pleurez. Hein? Alors, la déprime n'est pas la dépression, ici. Hein? On peut avoir une déprime, un coup de passage à vide, hein? Un coup de noir, hein? De la culpabilité, de la douleur, de la solitude. Ce n'est pas obligatoirement de la dépression. Mais, si vous avez un fond dépressif, hein? D'accord? Eh bien, il est possible que ça donne la permission à la dépression d'apparaître. Donc, on va être doublé, ici, par une vraie dépression qui est une maladie. Mais c'est pas obligatoire. Le trou noir n'est pas obligatoirement la dépression pour tout le monde. Hein. Mais au moment de déprime, oui, un sentiment d'impuissance, autrement dit, hein, où la condition humaine nous pèse. C'est fatigant de vivre. C'est fatigant d'être là. C'est fatigant de se battre. J'en peux plus de me battre. Hein. J'en ai assez maintenant de me battre. Hein. Où on vit la perte. Hein. On vit, je dirais presque, l'humiliation de la finitude humaine. Et un jour, si on n'a pas la dépression, hein, c'est là qu'il faut se faire soigner. Hein. Et ce sera pareil, mais plus long. Et un jour, on se réveille. Vous entendez les oiseaux?
Oui.
Tout d'un coup, on entend les oiseaux. Et on court, hein, se faire couper les cheveux, se teindre les cheveux, se maquiller, s'habiller, acheter des petites lingeries qu'il y a longtemps qu'on n'achetait plus. Hein, parce qu'on les voyait. D'accord, hein. Et on court. On va acheter des cravates, des chemises, hein, voilà, d'accord. Un jour, comme ça, la vie revient. Ça se fait, il y a une décision, hein, toute simple, je dirais, voilà, j'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Et la personne dit, oui, mais j'ai envie de vivre. Et à partir de ce moment-là, c'est comme quand vous amusez l'été dans les piscines, hein, vous tapez du pied quand vous arrivez en bas, vous savez, et vous remontez très vite, hein, vous mettez plus de temps à descendre qu'à remonter, quoi. Et un jour, les oiseaux chantent. Et un jour, la vie est de nouveau là. Et vous tapez du pied en bas, et très vite, vous allez remonter, ici. Et ça, on verra demain, hein, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe, hein, ensemble. Voilà, j'avais dit que je parlais jusqu'à 9h, c'est 9h à peu près. Hein. S'il y a des questions, je vais répondre aux questions, c'est des questions. Hein. Bon, je sais que c'est un sujet personnel et existentiel, hein. Alors c'est peut-être pas facile, mais vous dites, j'ai un ami. Hein. Voilà, excusez-moi. Transitionnel.
Transitionnel, oui, pardon.
La sexualité, alors, la sexualité, non. Non, la sexualité, non. L'objet transitionnel, c'est la personne. D'accord ? Voilà. Hein, c'est une personne. Pour le couple, c'est l'autre. Hein, c'est pas la relation sexuelle avec lui. Hein, parce que vous avez des couples qui n'ont plus de relation sexuelle, hein, et qui restent ensemble à cause de l'objet transitionnel. Alors, est-ce que c'est des couples ? Ça, c'est notre problème. Hein, d'accord ? Hein. Donc, c'est la personne. La sexualité a un autre rôle, c'est le rôle de l'attachement. Hein, le rôle de l'épanouissement par le plaisir. Or, quand on arrive au moment du divorce, très souvent, il y a longtemps qu'on ne remplit plus ce rôle. Hein. Elle a un rôle fonctionnel, j'ai envie de dire, des fois hygiénique, c'est tout. Quoi, hein. Elle a plus du tout le rôle de construction de la personne.
Tout à l'heure, vous avez parlé du presque disponible.
Oui.
Vous avez dit à 3 mois.
Trois mois
et après.
Ouais, non. Si les 3 mois, ce n'est pas rendu vraiment disponible, ce qu'il ne fera pas. Hein? Je ne peux pas le dire à ma femme, elle est déprimée, tu comprends, hein? Laisse-moi un peu de temps, soyons patients. Pipo, je vous le dis. Hein? Bon, je te dis, ça peut vous arranger de croire ça aussi. Hein? Hein? Ça veut dire s'engager comme ça, hein? D'accord. Mais bon, l'expérience, je veux dire, les statistiques montrent que c'est, voilà. Hein? Si vraiment il tient à vous, dans les 3 mois, il est libre. Hein? Sinon, c'est que...
Voilà. Et si la procédure de divorce, déjà.
Oui, on peut se libérer avant la procédure de divorce. Hein? D'accord. Parce qu'il faut un peu plus de temps, quoi. Hein? Je parle de liberté, je ne parlais pas de divorce. Hein. Oui.
Le rapport à l'enfant, un couple qui ne vit pas ensemble, enfin, un couple qui ne vit pas
oui.
Ensemble, qui n'a pas de communauté,
oui.
Et qui a un enfant, enfin, il y a quand même une certaine communauté, puisqu'il y a un enfant.
Oui.
Donc, et qui se met ensemble ensuite parce que l'enfant est né et qu'il faut un certain oui. Équilibre psychologique.
Oui.
Est-ce que ça rentre dans cette catégorie-là presque pas disponible, ou pas.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de relation ailleurs, je dis, c'est ça. Hein. Ou hein, qui sont dans une fidélité.
Non, c'est-à-dire que le couple
oui.
Existait.
Oui.
Une enfant est arrivée.
Oui.
Mais ils n'avaient pas de communauté de vie.
Oui.
Ils n'étaient pas ensemble au
moment. Oui. Enfant. Ils sont mis ensemble après.
Voilà, après la naissance de l'enfant, 3-4 ans après l'enfant. Est-ce que ce genre de personne qui ensuite entame une relation à l'extérieur du couple rentre dans cette fameuse catégorie de pas disponible ou presque pas disponible?
Ça peut être tous les cas possibles, hein, d'accord hein. En tout cas, c'est pas la meilleure moyen de se mettre ensemble. Hein. Ça, c'est clair. Quoi, hein. L'enfant perçoit, alors bon, on va pas en parler là, mais il perçoit de manière alors, très forte hein, ce qui se passe dans le lien parental. Hein. Les inconscients communicants, comme on dit souvent, d'accord, lui, il sait très bien que ses parents sont là pour lui. Donc, ce qui va lui poser un problème, on lui a donné un rôle, le rôle de maintenir les parents ensemble. Donc, ce scénario est déjà écrit, celui-là, quoi. Hein. Et donc, ta grande peur va être l'angoisse de la séparation, que ses parents se séparent, déjà que les parents ont peur naturellement, encore plus puisque lui, il a été là, il est là le garant de leur vie ensemble, tu vois. Donc, ça va lui donner une mission, on va dire, hein, qui va être insupportable pour lui. Donc, hein.
ça veut dire, pardon, j'ai appris.
Non, oui.
Par rapport à quelqu'un d'autre, mais alors ça veut dire que le père en question qui dit mon enfant souffre, il n'a pas dit qu'il souffrait parce que je n'étais pas là, ça rentre.
Oui, mais on peut très bien, alors je ne veux pas parler des familles recomposées, on peut en parler ou de la relation des parents, on peut très bien être un père à distance, un très bon père à distance, hein, parce que dans la fonction de père, dans le rôle de père, il y a deux choses, la fonction et le rôle, mais dans le rôle de père, on peut être un père symbolique très fort, très présent, même si on n'est pas présent tous les soirs. C'est vrai que peut-être le gamin aurait envie que son père raconte une histoire, mais je dis, au niveau psychologique, je dis, ça ne posera pas de trop de problèmes à l'enfant. Quoi. Si le père est régulier, est sérieux, prend soin de son enfant, paye la pension comme il faut, vient le voir quand il dit qu'il vient le voir, hein, ne saute pas 6 mois, puis vient avec une brassée de cadeaux, hein, puis ça va 6 mois, d'accord. Quand le père ne met pas l'enfant en compétition avec la mère, ainsi de suite. Donc autrement dit, le rôle de père, c'est pour ça que de toute façon là c'est les enfants avec la mère, qui elle, c'est beaucoup plus difficile, hein, d'accord. Le rôle de père, on peut très bien le vivre, symboliquement, à distance. Hein, d'accord. Voilà. Il y a le père réel, le père symbolique. Ce que l'enfant a besoin, c'est du père symbolique pour se construire. Hein. C'est-à-dire que... Alors, ce sera un peu plus difficile pour la mère qui va rester là, parce que l'enfant a besoin... J'ai pas dit ça. L'enfant a besoin d'être aimé par quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre que lui. Or, si la mère n'a pas d'autre amour dans sa vie que l'enfant, ça va devenir aussi piégeant pour lui. Hein. Donc, même moi, je vais jusqu'à conseiller des fois femmes qui sont dans cette situation-là, qui vivent avec un enfant, hein, en bas âge, ça veut dire ici, d'accord, hein, et qui n'ont pas de vision de couple reconstruite, hein, d'accord, hein, qui n'ont pas d'amoureux en vie, de dire invente-en un pour ton enfant. Parce que lui, il a besoin de savoir qu'il n'est pas le seul objet de ton amour. Hein, déjà qu'il a un problème séparé de toi, alors si en plus il sait que tu es tout pour lui, c'est hein, d'accord, c'est pas bon pour lui. Hein, Il faut qu'il sache que son amour a une limite au-dessus de notre, hein, même si cet autre-là est imaginaire. Hein,
voilà. C'est quoi l'enfant de bas âge?
Bon, jusqu'à le début de l'adolescence, hein, on va dire, parce que 7-8 ans, quoi, hein, 9 ans, quoi, tu vois, voilà, quoi, jusque-là, quoi, disons, quoi. Et même, tu vois, même au début de l'adolescence, quoi. De toute façon, par définition et par construction, je dirais, l'enfant n'a pas à connaître la vie intime de ses parents. La connaissance de l'enfant s'arrête à la porte de la chambre de ses parents. D'accord ? Il n'a pas à connaître les causes du divorce de ses parents. Il n'a pas à savoir si le divorce est parce que son père était impuissant, sa mère était frigide, hein, ou les deux. Hein ? Il n'a pas à savoir. Par contre, il doit savoir qu'il ne s'entendait pas. Il ne faut pas lui dire, tu sais, ton père et moi, on était de très bons amis, on s'entendait très bien, mais on se sépare. Parce qu'il n'a jamais renoncé à l'idée de réunir les deux. Je disais tout à l'heure, hein, d'accord ? Donc l'enfant n'a pas à savoir les causes profondes. Parce que c'est ses parents, c'est son père, il ne faut jamais l'oublier, c'est son père, c'est sa mère. Ça le restera jusqu'au bout. Hein, voilà.
Oui. Non.
Si l'enfant pose la question de séparation, on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions des enfants. Hein. D'accord ? Oui ? Alors, attends. Je ne connais pas votre cas, d'accord, je parle généralement. Imaginons, hein, c'est pas votre cas, imaginons que le père soit en prison. Hein, et vous voyez qu'il le sache, le gosse, quand son père est en prison. Quoi, hein, d'accord. Mais ça, ce n'est pas à cause de la prison qu'on divorce, c'est parce qu'il y a quelque chose avant. Quoi, hein. Sur les causes du divorce, l'enfant n'a pas ça. Vous lui dire, hein, non, c'est le problème de papa et maman, hein, et il le gère. Ce n'est pas ton problème à toi. Voilà. Alors, bon, s'il y a violence, il faut qu'il le sache aussi. Hein, par contre. S'il y a violence, qu'il y a un jugement, qu'il y a des... c'est pas pour cacher les choses, mais c'est pour pas le faire entrer dans l'intimité des problèmes de ses parents. S'il y a violence, il faut qu'il le sache. Hein, et donc, prison comme ça, hein, où là, s'il y a la loi qui a dit quelque chose, il doit le savoir. Hein, mais si c'est un divorce, j'allais dire naturel, hein, d'accord, hein, bon, il n'a pas rentré dans les détails des problèmes de ses parents. Hein, voilà. Il faut le protéger de ça à 5 ans, à 10 ans, et à 20 ans, et à 30 ans, et à 40 ans. C'est le rôle des parents de protéger les enfants. Voilà. Oui.
Quand il s'agissait de la colère,
oui,
vous avez dit qu'on pouvait la confier à Dieu.
Oui. Pas la confier, non, la dire à Dieu.
Dire à Dieu.
Oui.
Et au moment du refus de la réalité, vous avez dit que le Seigneur va faire quelque chose.
Oui. Peut... Oui. Ben justement, hein, c'est l'illusion qu'il va faire.
C'est pas son affaire, alors.
Mais on est contradictoire. Hein, on est contradictoire, on est plein de contradictions, les êtres humains. Hein, bon, puisque tu parles de Dieu, je vais dire une chose. Dieu, il a deux torts dans cette situation-là. Un, c'est de ne pas exister, et deux, c'est de rien faire. Tu vois la contradiction, quoi. Hein, mais c'est une contradiction, hein, bien sûr, hein, d'accord. Donc on lui reprochera de rien faire, tu vois, tout en lui demandant tout le temps. On n'est pas une contradiction pour ce domaine-là. En tout cas, c'est très souvent, très très souvent un frein. Voilà. Dans le travail sur soi et la séparation et le travail de deuil. Et la reconstruction de la vie. Une certaine perception des choses, hein, d'accord. Hein. Des illusions, on a l'illusion ici, hein, bien sûr, quoi. Ça, je l'ai vu tellement souvent. Il n'y a pas besoin d'un grand pratiquant pour que ça se produise. Hein. Hein, pour les pratiquants de... Oui.
Et quelle part laisser à Dieu, alors ?
Tout à l'heure, je ne sais même pas si ça intéresse. Hein.
Moi, je pars du principe que si je lui ai confié ma vie, c'est que ma vie l'intéresse. Ou alors, il n'y a pas de relation.
Oui.
Si je pars du principe que j'ai une relation avec Dieu, j'estime que aussi les petits tracas de ma vie l'intéressent.
C'est pas un petit tracas le divorce. Hein.
Oui, non, mais...
C'est une grave, grave blessure de l'être psychique de la personne. Alors, moi, je vais dire une chose qu'elle est claire. Hein. Je vais dire, je ne confonds pas secours et soutien. D'accord ? Je pense que Dieu est un soutien. D'accord ? Qui est un soutien, que la foi est un vrai soutien dans ces moments-là. Mais elle n'est pas un secours. Je fais la différence. D'accord ? ce n'est pas un secours magique qui va venir faire ce que moi je devrais faire. Le travail que je dois faire, les engagements que je dois prendre, les choses concrètes qui font que c'est ma vie qui se construit, par contre, il est un vrai soutien contre le désespoir, il est un vrai soutien contre la désespérance, il est un vrai soutien de compagnon, j'allais dire, je n'aime pas ce mot, mais d'accompagnement, là, il est un vrai soutien, mais il ne fera pas ce qui est à l'homme de faire. Là, on est dans le magico-religieux, qui est le gros problème de l'être humain, le magico-religieux. Alors, donc, soutien, oui. Secours, non. Non. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est pas pareil, hein, vous avez compris la différence. Hein, d'accord. Alors, qu'il soit un soutien, c'est évident. Hein, et qu'on peut lui demander de nous soutenir, de nous aider à porter ce problème, de nous aider à vivre ce problème, de nous accompagner dans la traversée du désert. Ça, je suis d'accord. Mais faire ma place, que moi, je devrais faire, là, je suis beaucoup plus réservé. Voilà. Oui.
Qui vient d'apprendre par ses enfants
que son mari divorce. Qui vient d'apprendre par ses enfants? Oui. Ben oui, ça c'est. C'est pas un grand courageux le mari. Hein.
Non.
Là, vous voyez que c'est pas un grand courageux. Quoi, hein.
Mais comment peut-elle faire son deuil? Elle n'est pas chrétienne du tout.
Oui. Mais il fallait qu'à un moment donné, elle rencontre son mari devant le juge.
Il ne veut pas.
Oui, mais il ne veut pas. Je veux dire, il y a la loi. Dans notre pays, il y a des lois. Hein, d'accord? Et les lois, c'est en fait pour tout le monde, même pour ceux qui ne veulent pas. Hein, d'accord? Voilà. Et s'il y a des enfants, il faudra qu'ils payent la pension, même s'ils ne veulent pas. Hein, je n'ai pas parlé de la pension. Hein, mais il est obligatoire que le mari, ex-mari, hein, d'accord, paye la pension.
C'est pas
un zéro, d'accord, hein, je suis d'accord. Le cas qui peut. Un sur deux ne le fait pas, entre parenthèses. Oui. Mais ce que tu dis, bon, je dis, il ne.
De se rendre en face de l'homme, de son mari, donc, elle n'arrive pas à avoir une explication pourquoi il divorce.
Mais ça, c'est sa liberté à lui, si vous ne pas lui dire. Hein. Moi, je ne peux pas le forcer. Hein.
Elle reste dans.
Non, alors, bon, je veux dire, il y a quand même d'entreprendre les démarches hein, de la justice. Oui. Bon, là, quand même, il y a des lois qui font qu'il sera bien obligé de la rencontrer pour lui dire devant le juge. Hein. Excusez-moi, quoi.
Hein.
Ah, mais tu sais qu'on peut mentir. Ah, mais qui monte. Moi, je dis, mais en quoi. Excusez-moi, en quoi hein, le fait de dire hein, pourquoi il divorce va l'aider cette femme? Sinon qu'elle est déjà dans un marchandage. D'accord? Mais pourquoi je vais m'accrocher à quelqu'un qui ne veut plus de moi? Qu'est-ce que j'espère construire? Qu'est-ce que j'espère construire de positif dans ma vie en m'accrochant au basque? Quelqu'un qui me méprise. Tu vois, c'est un problème d'image ici aussi. Hein, très forte, hein? Ça va? D'accord? Il n'y a rien à gagner cette histoire. Hein
hein c'est pas, est-ce que se rester accroché, c'est pas se perdre dans une certaine souffrance dans une...
Oui, c'est ça. Oui. C'est se complaire hein, de victime. On va trouver un rôle de victime, on est victime. Mon mari a abandonné, il n'a même pas me dire pourquoi il est parti. Hein bon, je ne suis pas très très utile non plus. Hein. Je ne pense pas que c'est très utile. Parce que ce qu'on dit consciemment, ce n'est pas la vérité inconsciente. Tu vois, il ne faut pas tout dire non plus. Ça sert à quoi de déchirer l'autre, de faire du mal, l'autre en plus. Hein. Peut-être que toi, hein, on peut voir ça comme ça aussi. Oui.
Oui, tout à l'heure, tu as parlé de souffrance accentuée ou refoulée
oui.
À cause des croyances.
Oui.
Alors, qu'est-ce que tu pourrais suggérer une piste à quelqu'un qui a sa croyance refoulée ou que j'avais dit tout à l'heure refoulée
oui, accentuée.
Ou accentuée donc dans les deux cas il y a grande souffrance donc à cause d'un problème de conviction religieuse
oui.
Alors qu'est-ce que tu pourrais suggérer comme piste pour que cette personne puisse trouver un chemin où elle va pouvoir se restaurer?
Elle a un conflit à gérer, on appelle un conflit cognitif hein? D'accord, elle a un conflit à gérer entre ce qu'elle vit, sa réalité qui est là, et ce qu'elle croit, qui est différent de sa réalité. D'accord? Qu'est-ce qui va prendre le dessus en elle? Ça, la réalité, d'accord? Ou ce qu'elle croit? Parce qu'elle est en danger hein, quasiment de mettre en place un clivage, hein, de se diviser en deux. D'avoir une partie d'elle qui croit, d'accord? Parce que ça l'arrange de croire ces histoires, et une partie hein, qui, elle, est dans la réalité, voit bien que Elle a beau y croire, hein, c'est pas ça qui changera les choses. Tu vois ce que je veux dire? Alors bon, elle peut se culpabiliser parce qu'elle n'a pas assez. Là, on va payer avec ça. Hein. D'accord? Donc, le danger, c'est qu'elle va se partager en deux. Tu vois, alors une vie clivée. Et quand on entre dans un clivage, ça devient quand même problématique. Hein, tu vois, assez sérieux l'histoire. Hein. Bon, on n'est pas loin du délire après. Hein. Et quand même, ça, c'est pas facile après à gérer. Hein. D'accord. Alors, pour revenir aux croyances, moi je pense qu'il faudrait qu'elle fasse un sérieux travail sur ses croyances. Hein? Comment je sais que ce que je sais est vrai? Voilà la question. Comment je sais que ce que je sais est vrai? Moi je peux affirmer des choses, mais comment je sais que c'est vrai? Tu vois? Alors, est-ce que j'ai raison contre toute l'humanité tout seul? Hein? Ou contre les trois quarts de l'humanité? Bon, voilà. La question, elle va devoir poser des questions sur ses croyances. Hein? Alors peut-être que ça va l'aider justement à revisiter des croyances qui sont plutôt infantiles, alors qu'elle est devenue adulte, elle continue à croire comme une enfant. Tolstoï, l'écrivain russe, hein, a dit, c'est pas parce que Dieu n'est pas dans un bout de bois que Dieu n'existe plus. Tu vois? Et là c'est un peu ça, c'est pas parce que sa croyance un peu magico-religieuse n'est pas juste qu'il n'y a pas une vraie foi en Dieu qui existe, qui peut exister, qui prend une place dans la vie. Tu vois, c'est que c'est un peu dans. C'est ça en psychologie, hein, le tout ou rien, quoi, les borderline, tu vois. Hein, ceux qui ont fait les cours, vous le savez. Hein, d'accord? Voilà ceux qui s'appellent le tout ou rien. Hein. Ah, c'est pas ça, il n'y a rien. Hein. Si Dieu ne fait pas ça, il ne fait rien, il n'existe pas. Non. Tu vois, on n'est pas dans le tout ou rien. Il y a des revisitations, je dirais, il n'y a même pas des visitations, hein, des revisitations de croyances qui nous permettent d'accéder à la maturité. Hein, parce que, voilà, je sais, disait quelqu'un, en qui j'ai cru. Je sais. Ça veut dire que j'ai parcouru un chemin intellectuel. Si mes croyances ne sont pas au niveau hein, de mon cerveau limbique, elles sont au niveau de mon cortex. Hein, voilà. Elles sont élaborées. Elles sont dans un discours élaboré. Et dans les croyances magico-religieuses, elles sont au niveau du limbique. Hein, elles sont émotionnelles, les croyances. Héritées comme on hérite de la maison de papa. Quoi, hein. Alors bien sûr que plus on y touche, plus on les affirme. Quoi. Mais bon, ça montre la fragilité. Bien sûr que Dieu existe. Bien sûr. Hein. Mais j'ai besoin d'avoir, c'est l'occasion pour moi, justement, peut-être de mettre en place des vraies croyances sur moi, sur l'autre, sur la relation, sur qui est Dieu, qui est. Voilà. Et c'est très fréquemment le cas. Hein. On voit au cours de divorce, on voit beaucoup de gens découvrir la foi. Enfin, découvrir. Hein. Hein. Se rebrancher sur la foi, j'allais dire. Quoi. Ça, c'est assez fréquent. Non pas comme une béquille pour avancer. Mais comme une vraie découverte de son humanité, de la dimension de sa vie, quoi, qu'elle avait un peu oublié en route. J'ai répondu ? Trois minutes ? Oui ?
C'est un cas particulier. Donc c'est une personne qui est en train de divorcer depuis le mois d'octobre et qui voudrait se remettre en quelque sorte avec une personne qui n'est pas divorcée, qui divorce depuis longtemps. Et qui apparemment fonde tous ses espoirs sur cette relation de couple.
Oui.
Et parce qu'il pense qu'il ne faut pas perdre de temps dans sa vie et que cette personne, c'est la femme qui l'attendait et la personne féminine n'est pas du tout dans cette même démarche. Et donc, est-ce que c'est normal que. Est-ce que. Un homme c'est l'homme qui divorce.
Oui.
Et depuis le mois d'octobre, et est-ce qu'il peut être déjà dans cette démarche de reconstruction?
Ah, les hommes. J'ai tout dit quand j'ai dit ça, ouais. D'accord. Hein? Dans ce qui concerne le couple, mais en général, hein, et ce cas particulier, et si les hommes étaient 1%, non, j'exagère, 10%, hein, 10% aussi tenaces, aussi sérieux, aussi engagés que les femmes, on aurait mille fois moins de problèmes. D'accord ? Que les hommes ouvrent leurs oreilles. Hein, j'ai envie d'amener mon mari ce soir. Bon, alors, je dis que dans les problèmes de couple, hein, mais c'est évident que les femmes se battent beaucoup plus pour leur couple que les hommes. Hein, c'est évident, elles sont beaucoup moins engagées. D'accord ? Donc, quand ils se séparent, ils ne peuvent pas vivre sans maman. D'accord ? Bon, mais donc, ils vont très vite se remettre en couple, les hommes. C'est vrai. Je n'ai pas de statistiques en tête, mais je pourrais te dire que c'est entre 6 mois et 1 an pour un homme et entre 4 et 5 ans pour une femme. Hein. Voilà. comme ça, à la louche, je te fais ça. Hein. Mais bon, en gros, c'est ça, tu vois. Voilà. Et en plus, ils vont se toucher très souvent, statistiquement, se remettre à un même conjoint, un futur conjoint, qui est beaucoup plus jeune qu'eux. Donc, ils vont se remettre dans des problèmes qui se passaient déjà, on va dépasser. Bon courage. Tu vois, ils vont se... Oui, c'est-à-dire qu'un homme de 50 ans va se marier avec une femme qui a 35. Hein, puisque la moyenne, c'est 12 ans. La moyenne différence d'âge, c'est 12 ans. Hein. Alors, bon, est-ce que c'est normal? Je ne sais pas si c'est normal. J'ai envie de dire, c'est humain. Tu vois? Non, mais peut-être qu'il les a déjà dépassés avant de divorcer. Il faut devoir parler avec lui, tu vois. Pourquoi il divorce? Est-ce que c'est lui qui a été largué par sa, par sa femme, tu vois? Ou est-ce que c'est lui qui a quitté sa femme? S'il a quitté, il y a longtemps qu'il était déjà parti, quoi, dans sa tête. Il faut voir ça aussi un petit peu. Mais le fait que les hommes se remettent beaucoup plus vite en couple que les femmes, bon, ça c'est très classique. Hein. C'est un classique. Hein. Ils sont pas très sérieux. Je ne vais pas attendre avec eux. Mais... Quoi? Je suis un traître là, aux hommes. Là. Non, mais je dis ça parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes ce soir. Voilà, demain je vous propose donc de voir comment reconstruire, donc après avoir tourné la page. Et comment construire en attendant de reconstruire, et comment reconstruire après avoir attendu. Ça vous va? Comment construire en attendant de reconstruire, vous avez compris, attendant le point charmant, et comment trouver le point charmant. Alors là, venez, je vous donnerai mon emploi. Merci.
Les hommes t'attendent dehors. Cache-toi. Bon, ben, tu lui casseras la figure demain après la session.
Ouais. Nous, on est là, les femmes.
Ah ouais.
Alors, juste 30 secondes d'attention, s'il vous plaît. Donc, si prenez le temps, si vous avez envie. Donc, on vous propose une petite collation, boisson chaude, froide. Voilà. Et plus ses affinités. Donc, prenez le temps de rester, de partager. Alors, il faut que vous sachiez que...
Oui. Alors, si vous voulez le livre, j'en ai qu'un, il est à moi, je le garde. Hein, vous avez ça dans toutes les grandes librairies de Bordeaux, hein, d'accord? Voilà. Hein.
Alors, Jacques Poujol vous propose, parce qu'on ne savait pas combien on allait être ce soir, c'était un petit peu... difficile à gérer, de vous propose de vous donner des documents qui sont en relation avec ce que vous allez avoir ce soir et demain.
Oui, je veux dire, il y a quelques documents. Hein. Voilà, j'ai à peu près trois documents à vous donner. Un, c'est un résumé du travail de deuil. D'accord. Deux, c'est la position des églises catholiques, protestantes, évangéliques et orthodoxes sur le mariage. Donc, la position théologique qu'elles ont, ça vous intéresse. Vous choisir votre religion comme ça. Et troisièmement, c'était quoi? C'était. Je vous dis maintenant, il y a un troisième truc, mais je ne sais plus ce que c'est. Il y a un troisième document qui allait avec. Je ne sais plus. C'est mort dedans.
Voilà. Donc, pour cela, pour faciliter, si vous souhaitez, pour que tout le monde soit à l'aise, si vous souhaitez recevoir ces documents, sur la table là-bas, il y aura Christelle. On vous met à disposition une feuille pour deux raisons. Laissez votre mail, on vous enverra le document. Comme ici on est dans une église, donc moi je vous donne la garantie que votre mail ne sera pas utilisé dans le cadre de notre église à nous, en tout cas, dans tout ce que je peux moi diffuser. Votre mail ne sera pas utilisé à d'autres fins, si ça n'est que de vous envoyer le document qui est en relation avec ce séminaire. Le fait que vous me laissiez votre mail... vous ne fera que vous ne recevrez pas de mail venant de notre église ou d'ailleurs. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, la seconde chose, ce genre de réunion, il y en aura d'autres. Donc, en nous laissant votre mail, si vous souhaitez simplement avoir une info sur une prochaine intervention ou de Jacques Poujol ou de quelqu'un de son envergure, bien, vous le signalez clairement sur la feuille, de façon qu'à ce moment-là, on gardera votre mail pour vous donner une info, mais toujours dans ce type de rencontre. Voilà. Et pour terminer, eh bien, si vous souhaitez nous aider par une libre participation en frais, on a voulu que ça soit libre pour que personne ne soit gêné pour venir. Donc, à côté de la feuille où vous allez écrire votre mail, ça vous laissera le temps aussi de faire un chèque. Oui, c'est possible aussi. Vous pouvez faire un chèque. Par contre, ça arrive, il y en a qui, je le dis parce qu'ils sont pratiques, hein, pas pour vous inciter à faire un gros chèque. Hein. Mais si vous faites un chèque, mettez l'ordre Église protestante. Surtout, ne laissez pas un chèque en blanc. Voilà, on est toujours embêté avec ça. Ok, donc vous avez une petite corbeille à la fin. Alors j'avais le choix ou de la faire passer ou de vous laisser la liberté de mettre quelque chose discrètement. Mais on m'a dit que le but, c'est pas de faire de l'argent, parce que quand on fait passer la corbeille, on récolte deux fois plus que quand on la fait pas passer. Alors, j'ai choisi de ne pas la faire passer. Voilà. Parce que, donc, sentez-vous libre de nous soutenir et puis de laisser votre mail pour les raisons que je vous ai indiquées. Ça va bien comme ça ?
Merci.
Donc, restaurez-vous et merci d'être venu. Puis à demain, je l'espère, à 14h30.
Peut-être après je vais taper.